10. 5 minutes plus tard, Eddie était allongé sur le linoléum de la cabane, dans ses culottes ridicules à la mode de la cala, lui arrivant aux genoux. D'une main, il tenait une ceinture de cuir qui, dans une autre vie, avait retenu divers pantalons d'Aaron Dipno. À ses côtés était posée une bassine remplie d'un liquide marron foncé. Le trou dans sa jambe se situait à environ 10 centimètres au-dessus du genou, légèrement à droite du tibia. La chair tout autour avait gonflé, formant un petit cône dur au toucher. La caldeira de ce volcan miniature était en ce moment plongée dans un caillot de sang écarlate et luisant. Le mollet d'Eddie reposait sur 2 serviettes pliées.
« Tu vas m'hypnotiser ?»
demanda-t-il à Roland. Puis il regarda la ceinture qu'il tenait entre les mains et marmonna.
« Ah merde, tu vas faire sang, c'est ça ?»«
Pas le temps. » Roland fourrageait dans le tiroir fourre-tout situé à gauche de l'évier. Il s'approcha d'Eddie avec une paire de tenailles dans une main et un couteau à éplucher dans l'autre. Eddie se fit la remarque que l'ensemble était du plus mauvais goût. Le pistolero mit un genou à terre, à côté d'Eddie. Tower et Dipno se tenaient dans la partie salon, l'un à côté de l'autre, et les observaient avec des yeux ronds.
« Il y a une chose que Cort nous a dite quand nous étions enfants. « Veux-tu que je te la répète, Eddie ?»
demanda Roland.
« Si tu penses que ça peut aider, te gêne pas. »
La douleur monte, du cœur à la tête, la douleur monte. Plie la ceinture de Sa et Aaron et fourre-la-toi dans la bouche.
Eddie obéit, se sentant très effrayé et très bête. Dans combien de westerns avait-il assisté à une scène de ce genre ? Parfois, c'était John Wayne qui mordait un bâton et parfois Clint Eastwood qui serrait une balle entre ses dents. Et il crut se rappeler que, dans une série télé, c'était Robert Culp qui avait mordu dans une ceinture.
« Mais bien sûr, il faut retirer la balle », pensa Eddie. « Pas de western digne de ce nom sans au moins une scène où on... »
Un souvenir soudain. D'une clarté presque choquante lui traversa l'esprit, et la ceinture lui tomba de la bouche. Il se mit à hurler. Roland était sur le point de tremper ses instruments de boucher dans la bassine, où il avait versé ce qu'il restait de désinfectant. Il se tourna vers Eddie, inquiet.
« Qu'est-ce qui ne va pas ?»
Pendant un moment, Eddie ne put répondre. Il avait le souffle littéralement coupé, ses poumons aussi plats que des vieilles chambres à air percées. Il se remémorait un film que les fils Dean avaient regardé à la télé un après-midi, dans leur appartement. Il passait à Brooklyn, dans le Bronx, à Co-op City. C'était toujours Henry qui choisissait le programme télé, parce qu'il était le plus vieux et le plus grand. Eddie ne bronchait pas souvent et pas très fort. Il idolâtrait son grand frère. Quand il protestait un peu trop fort, il avait droit à la bonne vieille brûlure indienne ou au coup de latte sur la nuque. Et ce qu'Henry préférait, c'était les westerns. Le genre de film dans lesquels, tôt ou tard, un personnage est contraint de serrer un bâton, une ceinture ou une balle entre ses dents.
Roland,
dit-il d'une voix à peine plus audible qu'un sifflement assourdi.
« Roland, écoute,
je t'entends très bien. »
« Il y avait un film. Je t'ai déjà parlé des films, pas vrai ?»«
Des histoires qu'on raconte avec des images qui bougent. » »«
Parfois, Henry et moi, on restait à la maison à regarder des films à la télé. En gros, la télé, c'est une machine à films pour la maison. »
Une machine à merde, on pourrait dire,
intervint Tower. Eddie ignora l'intrusion.
Dans un des films qu'on a vus, il y avait des paysans mexicains, des Falken, si ça te sied, qui engageaient des pistoleros pour les protéger des bandidos qui venaient chaque année piller leur village et leur voler leur récolte. Ce film s'intitulait Les 7 mercenaires. Et au fait, Roland, combien on était ce jour-là dans le fossé à attendre les loups ?
Ça vous ennuierait de nous dire de quoi vous parlez, les gars ?
Demanda Dipno. Mais il avait beau le demander poliment, aussi bien Eddie que Roland l'ignorèrent. Roland prit une seconde pour rassembler ses souvenirs, puis il conta à voix haute.
« Toi, moi, Susanna, Jake, Margaret, Zalia et Rosa. Il y en avait d'autres, les jumeaux Tevry, le garçon de Ben Slightman. Mais seulement 7 combattants. »«
Ouais. Et ce lien que je n'arrivais pas à faire, c'était le lien avec le réalisateur de ce film. » Quand on fait un film, il faut un réalisateur ou une réalisatrice pour tout diriger. C'est lui ou elle, le Dean.
Roland hocha la tête.
Le Dean des 7 mercenaires était un type du nom de John Sturges.
Roland resta assis un moment à réfléchir. Puis il lâcha.
Le cas.
Eddie éclata de rire, impossible de s'en empêcher. Roland avait toujours réponse à tout.
11. Et pour attraper la douleur, poursuivit le pistolero, il faut mordre dans la ceinture au moment où tu la sens passer. Tu comprends? À l'instant précis, la trucider avec tes dents.
Pigé, fais vite, c'est tout.
Je freine mon mieux.
Roland commença par tremper les tenailles, puis le couteau dans le désinfectant. Eddie attendait, la ceinture dans la bouche. Oui, une fois qu'on avait vu le dessin, impossible de voir autre chose, pas vrai? Roland était le héros de l'histoire, le vieux guerrier grisonnant qui aurait été interprété par une vieille star grisonnante mais incontournable dans la version hollywoodienne. Paul Newman? Ou peut-être Eastwood. Lui était le jeune chien fou, joué par un jeune premier sexy du moment. Tom Cruise, Emilio Estevez, Rob Lowe, des gars de ce genre. Et on se retrouvait dans un décor bien connu des amateurs, la cabane en pleine forêt et une situation bien rebattue elle aussi. Toujours aussi délectable, le coup du « il faut retirer la balle ». Tout ce qui manquait, c'était le roulement de tambour inquiétant, au loin. Eddie pensa tout à coup que, si on n'avait pas droit au tambour, c'était sans doute parce qu'on les avait déjà entendus plus tôt dans l'histoire. Les tambours des dieux. Après vérification, il s'agissait de l'intro à la batterie d'un titre de ZZ Top, poussé à fond dans les haut-parleurs de la cité de Ludd. Il devenait de plus en plus difficile de nier l'évidence. Ils étaient les personnages d'une histoire écrite par quelqu'un. Ce monde tout entier.
Je refuse de croire une chose pareille. Je refuse de croire que j'ai été élevé à Brooklyn simplement parce qu'un écrivain s'est trompé, le genre de choses qu'on corrige dans les épreuves. Hé, père, je suis avec vous. Je refuse de croire que je suis un personnage. C'est ma putain de vie. Vas-y, Roland, dit-il. Vire-moi ce truc de là.
Le pistolero versa du désinfectant sur la plaie dans le tibia d'Eddie, puis se servit de la pointe du couteau pour faire sauter le caillou hors de la plaie. Une fois cela fait, il baissa les tenailles.
« Tiens-toi prêt à mordre la douleur, Eddie, » murmura-t-il.
Et une seconde plus tard, c'est ce qu'il fit.
12.
Roland savait ce qu'il faisait. Il l'avait déjà fait et la balle n'était pas allée profond. L'opération fut bouclée en 90 secondes, mais ce fut la minute et demie la plus longue de la vie d'Eddie. Roland finit par tapoter une des mains d'Eddie avec la pince. Quand le jeune homme réussit à déplier les doigts, le pistolero lui déposa sur la paume une douille aplatie.
En souvenir. Elle s'est arrêtée pile sur l'os. C'était ça le raclement que tu as entendu.
Eddie considéra le fragment de métal écrasé, puis le balança d'une pichenette sur le linoléum, comme une bille.
« J'en veux pas, »
dit-il en s'essuyant le front. Tower, en éternel collectionneur, ramassa la douille rabougrie. Dipno, pendant ce temps, examinait dans un silence fasciné les traces de dents dans sa ceinture. « Cal, fit Eddie en se redressant sur les coudes, vous aviez un livre dans votre bibliothèque.
« Je veux récupérer ces livres, » répliqua immédiatement Tower. « Vous feriez mieux d'en prendre soin, jeune homme. »
« Je suis sûr qu'ils sont en parfait état, »
fit Eddie en se tenant prêt à tenir de nouveau sa langue s'il le fallait, ou à attraper la ceinture d'Aaron pour se la fourrer dans la bouche au besoin.
« Il vaudrait mieux, jeune homme, parce qu'ils sont tout ce qu'il me reste. »
« Bien sûr, avec les 40 ou 50 autres que tu gardes dans divers coffres. »
dit Aaron Dipno en ignorant complètement le regard noir que lui lançait son meilleur ami.
« Le mieux, c'est sans doute le Ulysse dédicacé, mais il y a quelques jolis Shakespeare en in-folio, une série complète de Faulkner signée,
Aaron, tu voudrais bien te taire,
et un Huckleberry Finn qui pourrait se convertir en coupé Mercedes en un clin d'œil, »
termina Dipno. « Quoi qu'il en soit, l'un d'eux était un ouvrage intitulé Salem, » reprit Eddie, « d'un écrivain du nom de
Stephen King, »
compléta Tower. Il jeta un dernier regard vers la douille, la déposa sur la table de la cuisine près du sucrier.
« J'ai entendu dire qu'il vivait près d'ici. J'ai récupéré 2 exemplaires de Salem et aussi 3 de son premier roman, Carrie. » J'espérais pouvoir faire un saut à Bridgeton et les lui faire signer. Je suppose que ce n'est plus d'actualité maintenant.
Je ne comprends pas ce qui lui donne une telle valeur, fit Eddie.
Puis,
oh, Roland, ça fait mal.
Roland était en train de vérifier le bandage de fortune qui entourait la blessure sur la jambe d'Eddie.
Reste tranquille, dit-il simplement.
Tower ne prêtait aucune attention à la scène. Eddie l'avait conduit une fois de plus sur son terrain de prédilection, son obsession, sa folie douce. Sans doute ce que le Gollum de Tolkien aurait appelé « mon précieux ».
Vous vous rappelez ce que je vous ai dit quand nous avons parlé du Hogan, monsieur Dean? Ou du Dogan, si vous préférez. J'ai dit que ce qui faisait la valeur d'un livre rare, comme d'une pièce de monnaie ou d'un timbre rare, tient à diverses choses. Parfois, il suffit d'un autographe.
Votre exemplaire de Salem n'est pas signé.
Non, parce que cet auteur en particulier est très jeune et peu connu. Peut-être qu'un jour il vaudra quelque chose, ou peut-être pas.
Tower haussa les épaules, comme pour dire que tout ça dépendait du cas.
Mais ce livre-là, eh bien, il n'a d'abord été tiré qu'à 7500 exemplaires, et presque tous vendus en Nouvelle-Angleterre.
Pourquoi? Parce que le type qui l'a écrit est originaire de Nouvelle-Angleterre?
Ouais. Et comme cela arrive souvent, la valeur du livre s'est créée de manière totalement accidentelle. Une chaîne locale a décidé de faire du matraquage publicitaire. Ils ont même produit une publicité à la télé, ce qui est quasiment du jamais vu à l'échelle locale. Et ça a marché. Le Bookland du Maine a commandé 5000 exemplaires de la première édition, presque 70%, et ils ont tout vendu jusqu'au dernier. Et aussi, comme avec le Hogan, il y a eu des coquilles en couverture. Pas dans le titre, en l'occurrence, mais sur le rabat de la couverture. On reconnaît une première édition de Salem au fait qu'ils ont retiré le prix à la dernière minute. Doubleday a décidé de monter le prix de 7,95 à 8,95, et aussi au nom du prêtre, sur le rabat.
Roland leva les yeux.
Qu'est-ce qu'il a, le nom du prêtre ?
Dans le livre, c'est le père Callahan, mais sur le rabat de la couverture, quelqu'un a écrit « le père Cody », qui est en fait le nom du médecin de la ville.
Et ça a suffi à faire grimper le prix de 9 $ à 950,
conclut Eddie avec émerveillement. Tower acquiesça.
C'est tout. La rareté, le prix coupé, la faute de frappe. Mais dans le fait de collectionner des livres rares, il intervient aussi une notion de spéculation que je trouve tout à fait excitante.
C'est une façon de dire les choses, j'imagine, répliqua sèchement Eddie.
Par exemple, supposons que ce King devienne célèbre ou que la critique l'encense. J'admets que la probabilité est faible, mais supposez que ça se produise. Les premières éditions de cet ouvrage en circulation sont tellement rares qu'au lieu de valoir 950 dollars, la mienne pourrait bien en rapporter 10 fois plus.
Il se tourna vers Eddie et fronça les sourcils.
Alors, vous feriez bien d'en prendre très grand soin.
Je suis sûr que tout va bien se passer, répondit le jeune homme en se demandant ce que penserait Calvin Tower s'il savait que l'un des personnages du roman le gardait sur une étagère de son presbytère indéniablement fictif. Le presbytère en question, situé dans la ville jumelle de celle servant de décor à un vieux film avec Yul Brynner dans le rôle du jumeau de Roland et Horst Bischoff dans le rôle d'Eddie.
Il penserait que t'es dingue, voilà ce qu'il penserait.
Eddie se remit sur ses pieds, tanga un peu et s'agrippa à la table de la cuisine. Au bout de quelques secondes, le monde se stabilisa.
Tu peux marcher en t'appuyant dessus ?
Demanda Roland. J'y arrivais avant, pas vrai ?
Oui, mais avant, personne n'était allé creuser dedans.
Eddie tenta quelques pas expérimentaux, puis hocha la tête. À chaque fois qu'il faisait reposer le poids de son corps sur sa jambe droite, son tibia se mettait à flamber de douleur. Mais oui, il pouvait marcher en s'appuyant dessus.
« Je vais vous donner ce qui me reste de percocet, » dit Aaron. « Je peux m'en procurer d'autres. »
Eddie ouvrit la bouche pour dire « Ouais, super, un boule !» Et il intercepta le regard de Roland. Si Eddie acceptait l'offre de Dipno, le pistolero ne dirait rien et le jeune homme ne perdrait pas la face. Mais, oui, son Dean l'observait. Eddie réfléchit au discours qu'il avait servi à Tower, à toutes ces images poétiques sur les lendemains difficiles. Poétique ou pas poétique, c'était vrai. Mais ça n'empêchait visiblement pas Eddie de suivre la même pente. D'abord un premier percodant, puis quelques percossets. Tous les deux un peu trop proches de la poudre pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. Alors, combien de temps encore avant qu'il en ait assez du touche-pipi et qu'il se dégote un truc qui soulage vraiment ?
Je crois que je vais faire l'impasse sur les percs, fit Eddie.
« On va à Bridgeton. »
Roland le considéra avec surprise.
« Ah oui ?»«
Ouais, je pourrais trouver de l'aspirine en chemin. »«
De l'astine ?»
dit Roland avec une indubitable pointe de tendresse.
« Vous êtes sûr ?»
demanda Dipno.
« Ouais, je suis sûr. »
Il marqua une pause puis ajouta.
« Grand pardon. »
13. 5 minutes plus tard, ils se tenaient tous les quatre sur le pas de la porte, sur un tapis d'aiguilles de pin, à écouter les sirènes et à contempler la colonne de fumée qui commençait désormais à se disperser. Eddie faisait rebondir les clés de John Cullum dans sa main avec impatience. Roland lui avait demandé 2 fois si ce crochet par Bridgeton était réellement nécessaire et Eddie lui avait répondu les 2 fois qu'il était pratiquement certain que oui. La seconde, il avait même ajouté, avec une pointe d'espoir, qu'en tant que Dean, Roland pouvait rejeter la proposition s'il le souhaitait.
« Non, si tu penses qu'on doit aller voir ce fileur d'histoire, on le fera. » J'espère juste que tu sais pourquoi.
M'est avis que quand on arrivera là-bas, on le comprendra tous les deux.
Roland hocha la tête, mais sans paraître plus satisfait.
Je sais que tu as autant hâte que moi de quitter ce monde, ce niveau de la tour. Si tu tiens à aller contre ça, ce doit être poussé par une intuition forte. C'était le cas. Mais il y avait autre chose aussi. Il avait eu des nouvelles de Susanna, un message en provenance de sa version à elle du Dogan. Elle était prisonnière au sein de son propre corps. Du moins, c'est ce qu'Eddie pensait qu'elle essayait de lui faire comprendre. Mais elle était en 1999 et elle allait bien. Le contact s'était produit pendant que Roland remerciait Tower et Dipno pour leur aide. Eddie se trouvait dans la salle de bain. Il y était allé pisser, mais ça lui était sorti de la tête entre-temps, et il s'était simplement assis sur le couvercle des toilettes, la tête baissée, les yeux fermés, essayant de lui envoyer un message, de lui dire de ralentir Mia si elle le pouvait. Il avait perçu la lumière du jour autour d'elle. New York en plein après-midi. Et ce n'était pas bon signe. Jake et Callahan avaient passé la porte dérobée et s'étaient retrouvés à New York la nuit. Eddie l'avait vu de ses propres yeux. Peut-être serait-il en mesure de l'aider, mais seulement si elle ralentissait Mia. « Fais-lui perdre la journée !» lui envoya-t-il comme consigne. Du moins, essaya-t-il.
« Il faut que tu gaspilles la journée avant qu'elle t'emmène là où elle doit aller pour accoucher. Tu m'entends ? Sus, tu m'entends ? Réponds si tu m'entends. Jake et le père Callahan arrivent. Il faut que tu tiennes le coup. »«
Juin, »
répondit une voix dans un souffle.
« Juin 1999. Les filles se baladent le ventre à l'air et... »
Puis Roland frappa à la porte de la salle de bain et Eddie l'entendit lui demander s'il était prêt à décoller. Avant la fin du jour, il se rendrait au chemin du dos de la tortue dans la ville de Lovell, à l'endroit où les entrants étaient monnaie courante, à en croire John Cullum, et la réalité promettait d'être tout aussi évanescente. Mais ils allaient d'abord faire un saut à Bridgeton, dans l'espoir de rencontrer l'homme qui semblait avoir créé Donald Callahan et la ville de Salem Slot.
Imagine le délire. Si King était parti au fin fond de la Californie en train d'écrire le scénario du film, un truc dans ce genre,
pensa Eddie. Mais il ne croyait pas vraiment à cette hypothèse. Il se trouvait toujours sur le sentier du rayon, sur la voie du cas. Say King. Aussi, probablement.
Il va falloir que vous soyez très prudents, les gars, leur dit Dipno. Il va y avoir un paquet de flics dans le coin, sans parler de Jack Andolini et de ce qui restera de sa joyeuse petite bande.
En parlant d'Andolini, intervint Roland, je pense que l'heure est venue pour vous deux de vous rendre dans un endroit où il n'est pas, pour une fois.
Tower se hérissa, Eddie l'aurait prédit.
Partir ? Maintenant ? Vous voulez rire ? J'ai là une liste d'une bonne dizaine de personnes dans la région qui collectionnent des livres. Achat, vente, échange. Certains savent ce qu'ils font, mais il y en a d'autres.
Il fit le geste de couper quelque chose, comme s'il tondait un mouton invisible.
Des gens qui vendent des vieux livres dans des vides-greniers. « Il y en aura aussi dans le Vermont, » fit remarquer Eddie. « Et rappelez-vous avec quelle facilité on vous a trouvé. C'est vous qui nous avez mâché le travail, Cal. »«
Il a raison, » dit Aaron.
Et comme Calvin Tower ne répondait rien, se contentant de baisser la tête et de contempler ses chaussures d'un air boudeur, Dipno se tourna de nouveau vers Eddie.
« Mais au moins... » Cal et moi avons notre permis de conduire. Si la police nous arrêtait et voulait contrôler notre identité, je suppose qu'aucun de vous n'en a.
Supposition bien fondée, acquiesça Eddie.
Et je doute que vous possédiez un permis pour ces pistolets gigantesques aussi.
Eddie jeta un œil vers le gros revolver, incroyablement ancien, qui pendait juste en dessous de sa hanche, puis releva les yeux vers Dipno.
Encore un point pour vous,
dit-il avec une pointe d'amusement.
Alors faites attention, une fois sorti d'East Stoneham, ça devrait aller.
Merci,
fit Eddie en tendant la main. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Dipno la serra.
C'est tout à fait charmant de votre part, fiston, mais malheureusement mes nuits n'ont pas été particulièrement plaisantes ces derniers temps. Et si le tableau médical ne s'éclaire pas, je crains que mes jours ne soient pas très longs non plus.
Ils seront plus longs que vous ne pourriez le penser, le corrigea Eddie. J'ai de bonnes raisons de croire que vous avez encore au moins 4 ans devant vous. Dipno porta un doigt à sa bouche, puis le pointa en direction du ciel.
Des lèvres de l'homme à l'oreille de Dieu.
Pendant que Roland serrait la main de Dipno, Eddie se tourna vers Calvin Tower. L'espace d'un instant, Eddie crut que le libraire ne voudrait pas serrer la sienne, mais il finit par céder, à contre-cœur.
Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, Say Tower. Vous avez pris la bonne décision.
J'ai été contraint, et vous le savez, répondit Tower. Ma boutique partie en fumée, ma propriété disparue, et on va me priver des seules vraies vacances que j'ai prises en 10 ans.
Microsoft, dit sèchement Eddie. Puis, les Lénines.
Tower cligna des yeux.
Je vous demande pardon.
Les Lénines,
répéta Eddie. Puis il partit d'un grand éclat de rire.